Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord la Vuelta, le Tour d'Espagne. Hier, la cinquième étape avec un nouveau leader, le Français Rudy Mollard, qui a pris le maillot rouge à Bilbao 4 ans après l'avoir déjà porté à la Vuelta et surtout 1 an après un grave accident ici en Espagne. On l'écoute.
Qu'est-ce que ça représente de retrouver le maillot rouge de la Vuelta ?
Ça représente beaucoup. L'année dernière, j'avais dû quitter la course. J'avais pris un grave accident. Je savais pas si j'allais pouvoir revenir à mon meilleur niveau. Et 1 an après, je suis leader de la course. Ouais, c'est beaucoup. J'ai vraiment galéré cet hiver. J'ai fait plus de 9 semaines sans sport. La reprise a été difficile. Après, j'ai eu un Covid vraiment sévère en janvier. J'ai repris la compétition que fin mars. Et là, je suis leader d'un grand tour. C'est faut toujours y croire, quoi. Merci.
Et c'est Marc Soler, l'Espagnol, qui s'est imposé lors de cette cinquième étape. Mardi, la quatrième étape a été marquée par l'arrivée en Espagne après les débuts dans les Pays-Bas. L'étape a été remportée par Primož Roglič.
C'est fou. Bien sûr, c'est l'une de mes victoires les plus importantes. Je suis super heureux. Mais ce n'est que le début du chemin. Enfin, je dis toujours que c'est mieux d'avoir des secondes d'avance que de retard. Toute la journée, le rythme était déjà soutenu. C'était une étape ultra rapide. Dans le final, j'ai eu l'opportunité de me battre pour la victoire d'étape et j'avais les jambes, donc j'ai tenté le coup.
Formule 1, Daniel Ricciardo, l'Australien, quitte McLaren à la fin de la saison après avoir passé 2 ans avec cette écurie. Il reste cependant un sportif enthousiaste et passionné pour la Formule 1. On l'écoute.
The sport, you know, I still love it. I still love it. You know, this hasn't affected any of that. I still have that fire in me, that belief in my belly that I can do this at the highest level. So yeah, all that stuff's still there. But yeah, just wanted to say appreciate everyone's support through the highs, lows, everything in between. This isn't it for me. But yeah, we'll see what lies ahead.
On passe au footy australien avec la Ligue féminine qui débute ce jeudi entre Carlton et Collingwood. C'est la première fois que l'AFLW a 18 équipes complètes avec l'introduction des équipes féminines d'Essendon, de Hawthorne, de Port Adelaide et de Sydney au sein de cette Ligue. Foot ballon rond, la Ligue des champions, les matchs barrages, retour avec Glasgow Rangers qui a battu le PSV Eindhoven 1-0. Et se qualifie. Le FC Copenhague se qualifie également après le match nul 0-0 contre Trabzonspor. Et le Dynamo Zagreb se qualifie également après sa victoire 4-1 contre Bodø Glimt. Mardi, le Benfica a battu le Dynamo Kiev 3-0. Les précisions de Antoine Grenier pour RFI.
Les Lisboètes facilement qualifiés pour la phase de groupe de la C1 en dominant 3-0 les Ukrainiens du Dynamo Kiev en barrage retour. Réalisation d'Otamendi, Rafa Silva et David Neres. Le club portugais continue d'écrire sa belle histoire avec la Ligue des Champions. En tout cas, l'objectif est atteint pour le défenseur latéral espagnol Grimaldo.
Se qualifier pour les phases de poule était l'un de nos principaux objectifs. Nous avons gagné avec la manière, notre qualification est méritée. Je pense que nous sommes sur une très bonne dynamique, que notre groupe est fort. En plus, jouer dans ce stade avec le soutien de notre public, on avait l'impression de jouer à 12 sur le terrain.
Grimaldo, le défenseur du Benfica au micro d'Eleven Sport.
Dans les autres matchs, le Victoria Plzeň et le Karabakh FC a battu le Karabakh FC 2-1 et se qualifie. Et l'étoile rouge de Belgrade et Maccabi Haïfa ont fait match nul, 2-2, mais c'est le Maccabi Haïfa qui se qualifie ayant gagné 1-0 au match aller. Ce soir, le match barrage retour de la Ligue Europa Conférence et ce sera entre Nice et le Maccabi Tel Aviv. Ce jeudi également, le Paris Saint-Germain et l'OM vont connaître leurs adversaires en phase de groupe de la Ligue des Champions. analyse avec Annie Gasnier, Gilles Verdez, Yoro Mangara et Naïm Moniol de Radio Foot International.
Le PSG vont moins trembler, oui. Mais c'est vrai qu'une équipe comme Marseille, elle pourrait avoir le désagrément de tomber, je crois, contre le Bayern, contre...
Ah bah en chapeau 1,
Liverpool. Liverpool.
Le pire, je crois que le pire, c'est le chapeau 2. Parce que le chapeau 1, t'as Francfort, t'as Porto, t'as l'Ajax, alors que dans le chapeau 2, t'as Chelsea, Liverpool. T'as Liverpool, t'as Barcelone, t'as l'Atlético, t'as Tottenham.
Oui, c'est dur. Alors, donc 1 et 2, ça change pas. Mais c'est vrai que pour Marseille, c'était mieux d'être dans le 3 que dans le 4. Après, j'ai envie de vous dire, Annie, si Marseille en est maintenant à trembler pour l'histoire de chapeau, c'est vrai que les dernières campagnes de Ligue des Champions de Marseille font qu'on peut trembler pour l'histoire de chapeau.
C'est pour ça qu'ils sont dans le quatrième. Hein,
exactement. Clairement. Mais ce serait bien, au-delà des chapeaux pour l'OM, de retrouver une ambition en Ligue des Champions. Parce que le tirage au sort, d'accord, mais après, on a l'impression, chaque fois que Marseille participe à cette épreuve, qu'ils sont condamnés finalement, au mieux, un jour, à être reversés dans la sous-compétition Ligue
pour
Europa.
Pour avoir l'ambition, il faut des joueurs et pas avoir des joueurs, il faut des sous.
Oui, mais d'accord, mais je trouve que c'est triste pour l'OM d'en être à scruter les chapeaux pour espérer briller une place plus loin.
Je pense que même le Paris Saint-Germain scrute les chapeaux quand même.
Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que le PSG est quasi sûr à la fois. Pas match tout le monde, mais quasi sûr. Mais il passe à chaque fois.
Ils tremblent un peu. Ils sont chapeau 1. S'ils font Liverpool, chapeau 2, Inter, chapeau 3.
Oui, ça passera quand même.
Oui, ça passera, mais...
Mais voilà, c'est triste pour l'OM d'en être à regarder les chapeaux. Et c'est vrai que l'OM regarde les chapeaux.
Oui,
voilà, ça me rend triste.
Et nous, on regarde l'OM et on se pose des questions aussi. Oui. La finale, ça sera en mai prochain à Istanbul.
Le championnat de foot en Ukraine a repris mardi dans certaines parties du pays, malgré la guerre qui continue. Et 6 mois après l'invasion russe, le match d'ouverture a eu lieu à Kiev, au stade olympique. Simon Bourtembourg et Frédéric Suto pour RFI.
Un stade de 70 000 personnes vide comme théâtre de la reprise du football ukrainien. En ouverture, Kharkiv affrontait le Shakhtar Donetsk, leader du dernier exercice, lorsque les instances ukrainiennes ont décidé d'interrompre le championnat en avril dernier. Cette saison, aucun spectateur ne pourra donc assister aux rencontres qui se tiendront toutes dans la région de Kiev ou dans l'ouest de l'Ukraine. Beaucoup de clubs ne joueront donc pas à domicile et certains ne prendront tout simplement pas part à ce nouveau championnat. C'est le cas du Mariupol FC qui se retrouve désormais sur le territoire russe et du Desna Tcherniv dont le stade a été détruit par les bombardements. D'ailleurs, toutes les enceintes choisies pour accueillir des matchs de football doivent disposer d'un abri anti-aérien et des militaires assurent la sécurité des équipes. Les matchs peuvent être interrompus si des sirènes retentissent. Les joueurs et les membres du staff doivent alors se réfugier dans les vestiaires. À la veille du jour où le pays célèbre son indépendance acquise en 1991, la reprise du football en Ukraine, malgré la guerre, est une volonté du président Volodymyr Zelensky. En personne.
Les résultats de cette première journée de championnat de foot ukrainien, on va les donner. 0-0 entre le Shakhtar Donetsk et Metalist 1925. 3-1 pour Zorya Lugansk face à Vorska Poltava. 1-0 pour Veres Rivne, opposé aux joueurs du Tchernomorets Odessa. Et puis le succès 1-0 de Kolos Kovalivka face à Krivbas Kivrog.
Le joueur de tennis australien Nick Kyrgios est poursuivi en justice par une fan de tennis qu'il a accusé d'être ivre lors de la finale de Wimbledon de cette année contre Novak Djokovic. Nick Kyrgios s'est plaint à l'arbitre lorsque la fan lui avait parlé alors que se déroulait le match. Nick Kyrgios affirmant à l'arbitre, et je cite, qu'elle avait trop bu. La fan Anna Palus intente maintenant une action en justice pour cette plainte, alléguant que Nick Kyrgios l'avait diffamé en faisant une allégation imprudente et entièrement sans fondement. Une déclaration publiée par ses avocats indique que l'allégation de Nick Kyrgios lui a causé à elle et à sa famille des dommages et une détresse très importants. Anna Palus déclare qu'elle s'est engagée à poursuivre l'action en justice jusqu'au tribunal de grande instance, si nécessaire, et qu'elle fera don de tout l'argent qu'elle gagnera à une association caritative. Voilà pour le Journal des Sports de ce jeudi.